Minimolt
ou Maximolt.
Tendez votre oreille vers un nouveau monde aux proportions instables. Il est 19h et les poussières, et vous embarquez pour une petite heure de grandes rencontres grâce à une collaboration de petits médias. Comme chaque année, 48FM et Radio Bartas vous proposent leur plateau en direct du Festival Dolt.
Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous confortablement à l'écoute de Radio Bartas et 48FM. On va passer ensemble une heure d'émission spéciale en direct du village du Blémard pour parler du Festival Dolt. Et oui, si ce week-end certains célèbrent l'ascension du petit Jésus dans le ciel, nous aussi en Lozère, on monte à notre paradis à nous, le Mont Lozère, pour notre cher festival de musique et de spectacles vivants. Pour animer ce plateau à mes côtés, Raphaël, journaliste à Radio Bartas. Bonsoir Raphaël.
Salut Thomas.
Comment tu vas avec cette chaleur ?
Eh bien écoute, franchement, il fait beaucoup plus chaud que prévu. Je crois que j'ai même pris un petit coup de soleil tout à l'heure.
Eh oui, on ne s'y attendait pas du tout. Il y a eu certains techniciens même sont venus avec de la neige, il me semble, sur le Mont Lozère pour franchir le col des Finiels et venir jusqu'ici. Mais là, effectivement, aujourd'hui, on a eu un peu de chance avec du vent, mais un soleil. Et puis également, coucou à Léo de la technique pour Bartas. Merci à toi d'être ici. Allez, au programme de cette émission, nous allons revenir sur cette donc 22e édition débutée hier soir. On vous fera également vivre les coulisses de cet événement marquant qui lance la saison estivale culturelle en Lozère. On aura également la chance d'accueillir des artistes et comédiens qui se sont produits aujourd'hui dans les rues du Blémard. Et puis, bien entendu, on vous dira tout sur la suite du week-end et des concerts qui auront lieu jusqu'à tard demain soir. Avec nous en plateau, déjà plusieurs invités, il me semble, Raphaël.
Mais oui, tout à fait. On a Dimitri avec nous. Salut Dimitri.
Bonsoir, bienvenue au Blémard.
Voilà, donc toi, tu es le président du Rude Boy Crew, donc organisateur du festival. Merci de nous accueillir.
Merci à vous.
À côté de toi, Émilie. Salut Émilie.
Salut.
Toi, tu es la chargée de la saison culturelle pour le Rude Boy. Et Fif, tu es là aussi. Salut.
Salut.
Toi, tu es chef média communication du festival.
C'est ça.
Eh ben, merci d'être là tous les trois pour ouvrir ce plateau.
On vient de dire un mot donc, du sommaire de cette émission, mais avant j'aimerais quand même revenir avec vous sur l'ouverture du festival hier soir. Dimitri, si tu veux, comment ça va depuis hier ? Comment ça s'est passé la première soirée musicale hier soir ?
Alors ça va très bien, évidemment c'était une première soirée qu'on avait prévue un peu rock'n'roll au vu des conditions météo. Donc là, ces deux, trois derniers jours, on était en train de s'arracher les cheveux pour savoir si on allait replier, qu'est-ce qu'il allait pouvoir jouer, qu'est-ce qu'il allait ne pas jouer. Et puis finalement, hier soir, sous des trompes d'eau, on a quand même eu plus de 400 personnes qui sont venues au festival, qui ont joué le jeu. Et là, avec le beau soleil aujourd'hui, là, ça se remplit encore un peu plus.
Ouais, c'était une bonne nouvelle. C'est vrai qu'hier, avec la météo, on peut parfois penser, se dire que tout le monde ne va pas pouvoir venir et finalement une belle jauge hier aussi, des artistes aussi qui ont fait le show, Fif.
Hier soir carrément, ouais. C'était une belle première soirée, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'énergie dans la foule ou sur scène, c'était cool, ça réchauffait un peu.
Et est-ce que on peut, parce que du coup on a pu aussi découvrir les artistes, les concerts hier soir, aujourd'hui il y a déjà eu quelques spectacles, mais on a aussi pu découvrir toute la déco, la scéno, qui est quand même géniale, c'est super chouette parce que moi j'avais vu les visuels, on avait vu le teaser, et là quand on est sur site on redécouvre un peu plein d'éléments comme ça que vous avez fabriqués. Et donc on peut rappeler le thème de cette scéno, c'est Minimolt, Maximolt. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus ? Qu'est-ce que c'est en fait cette idée derrière ce thème ?
Alors, Dimitri. Je vais répondre maintenant. Ouais. Et en fait, chaque année, on travaille donc en collaboration avec le Hangar Gori. Donc, le Hangar Gori, c'était une section artistique au départ du Rude Boy Crew. Puis maintenant, on a deux associations distinctes. Et l'idée, c'est de trouver un thème toujours avec Holt. Ça, c'est basique, vu qu'on est aux sources du Lot, Holt. Et cette année, il y avait la volonté de questionner justement ce rapport au petit, au gigantesque, parce que il y a toujours une actualité qui est un peu morose. Et nous, on a dit qu'on allait se réfugier au fond du jardin, sous les fleurs, sous les arbustes, et qu'on allait faire notre petit monde là, et qu'on allait rien demander à personne, et qu'on allait être très tranquille avec tous les festivaliers.
Donc dans le mini-monde qui, en fait, est infini et très, très beau.
Et on va aussi profiter que vous soyez là pour, juste après une petite page musicale, d'ici 15-20 minutes, on va recevoir deux comédiens de deux compagnies pour nous parler de leur spectacle. Mais là, l'occasion d'être avec vous, c'est aussi de parler un peu de qu'est-ce que c'est le Festival d'Olt, depuis combien de temps ça existe, et également derrière parler du Rude Boy Crew. Moi, je voulais parler... Vous êtes connu donc avec ce festival qui ouvre la saison des festivals, mais il y a une saison culturelle à l'année, il faut le dire aussi, le rappeler ici en Haute-Vallée du Lot. Peut-être, Émilie, expliquer un peu que là, peut-être des auditeurs que vous nous écoutez en se disant « Ok, le Rude Boy Crew fait le Festival d'Olt », mais en fait, on peut venir vous rencontrer toute l'année.
Oui, carrément. Donc, on siège à Bagnoles-les-Bains depuis 2019. Je suis sous le contrôle de mon président Dimitri à côté. Et le théâtre nous permet d'accueillir sur l'année des spectacles, des concerts et de développer aussi des projets territoires en lien avec nos habitants, habitantes. Ça peut aussi venir en dehors du théâtre. Là, on avait déroulé des projets autour de veillées de fours à pain. Donc, on allait allumer les fours à pain de nos communes voisines. Oulté, Lozerette. Et Lozerette, c'est d'ailleurs le 3 juillet, qui est aussi notre soirée de clôture. Voilà, donc sur l'année, on a aussi un espace de vie sociale. C'est un agrément que l'on a reçu depuis 2 ans et qui nous permet d'être aussi un repère pour les habitants, habitantes, de venir amener leurs demandes, leurs souhaits. On doit pouvoir les accompagner et aussi les rendre autonomes dans leurs projets, les soutenir pour rendre leur quotidien plus agréable ou plus chouette à construire aussi ensemble.
Il y a vraiment cette idée-là de se dire, on dit souvent que voilà... Notamment en Lozère, les associations font un peu le boulot là où il n'y a plus de services publics. Donc là, ce qu'on comprend bien, moi j'ai l'impression, c'est que vous n'êtes pas seulement des gens qui organisent des concerts ou des événements ou des spectacles, mais il y a vraiment tout cet aspect-là. Tu parlais de projets territoriaux, qu'est-ce que ça veut dire derrière concrètement ?
Ça veut dire que ce sont des projets qui viennent soit d'initiatives d'habitants, soit de propositions de l'association vers les habitants, mais qui se co-construisent, qui ne se font pas d'un côté ou de l'autre. Et ça va venir aussi soutenir les artisans qui sont installés, les commerçants qui sont installés, et d'amener aussi un ajout artistique ou culturel, ou les deux, dans leurs projets. Et les projets de veillée four à pain, c'est aussi mettre en valeur le patrimoine local, rallumer certains endroits qui n'ont pas été... rallumés depuis un petit temps et qui sont restaurés et qui sont aussi le cœur d'un village. Donc c'est vraiment amener la touche artistique et culturelle. Et tout simplement, c'est un lieu de retrouvailles aussi. Vraiment, il y a quand même un lien social assez fort sur cette saison.
Et qu'est-ce que disent justement les habitantes et habitants du territoire quand, bon, certains vous connaissent, hein, on l'a dit, l'association est là depuis longtemps, mais il y a parfois, je ne sais pas, des merci. C'est vrai que ce four à pain, je m'en souviens, petit, il était allumé et là, j'y retourne. Enfin voilà, typiquement sur ces...
Je peux demander à...
Oui, Émilie, mais...
Mais en effet, moi aussi, je parle du four à pain que j'ai vécu en mars, vu que je suis arrivée en janvier sur l'association. Mais oui, on a eu encore des remerciements sur des semaines après qui étaient assez chouettes et qu'on relayait bien sûr, que ce soit sur les ajouts de la scénographie du hangar au Gorille qui vient aussi habiller nos événements, nos rencontres, mais juste le fait d'organiser quelque chose ensemble et pour les gens qui habitent là.
Tu évoquais les artisans et les commerçants, et le Festival d'Olt, il y a le site avec les chapiteaux, mais il se déploie aussi dans le centre-ville. Et d'ailleurs, voilà, ça, il y a aussi les commerces locaux qui jouent le jeu, il y a la déco dans les petits bars, il y a la boulangerie qui est là. Voilà, c'est ça. Donc ça inclut aussi vraiment tout le village du Blémard qui sont là, qui participent.
Oui, carrément, j'ai l'impression même qu'ils nous attendent un peu chaque année. Quand on tarde trop à apporter des trucs à la boulangerie, ils viennent nous dire « Eh oh, on est là !»
Absolument.
Et un autre aspect aussi qui est important pour le Festival d'Olt, c'est le travail que vous faites pour prévenir les violences et le harcèlement sexiste et sexuel en milieu festif. D'ailleurs, vous êtes même labellisé pour ça. Vous avez le label Label et la Fête depuis 2025. Qu'est-ce que c'est que ce label ? Je ne sais pas qui d'entre vous trois veut en parler. Fif ?
Bah, c'est une labellisation qui est mise en place dans le cadre d'Octopus, qui est un réseau... basé dans le sud de la France et qui du coup permet un peu au Rude Boy d'assurer un cadre qui est le plus sécurisant possible pour les personnes qui viennent faire la fête ici avec nous, simplement parce qu'on trouve que c'est important quand on propose un cadre et un espace festif de derrière juste faire en sorte que cet espace soit le plus safe possible pour les personnes qui font la fête, parce qu'on sait que dans les cadres festifs, les gens boivent de l'alcool, font la fête, se désinhibent un peu, et que du coup, dans cet espace désinhibé, il peut se passer des choses qui débordent du cadre conventionnel et qui du coup mettent certaines personnes mal à l'aise, voire mal tout court. Du coup, c'est cool de pouvoir prévenir au maximum ces violences-là et de mettre en place des espaces d'accueil de la parole des personnes qui ont pu en subir.
Et justement, là-dessus, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Raphaël, mais dès l'entrée du festival, il y a une charte. On voit qu'en fait, c'est quand même quelque chose de mis en avant. Même aussi dans les coulisses, il y a de quoi appeler le numéro d'urgence. Moi, j'étais hier à l'after festivalier aussi, juste en dessous de l'enceinte. On rappelle aussi les règles. Donc, c'est quand même quelque chose que vous mettez en place et qui se voit vraiment de premier plan. Mais bon, c'est la 22e édition. Peut-être Dimitri ou quelqu'un qui serait là depuis plus longtemps. Depuis quand vous datez, en tout cas, il y a eu cette idée-là dans les réunions de préparatifs, le mot VSS, il y a 22 ans, on n'en parlait pas du tout.
Non, du tout. C'est très intéressant comme question parce que c'est quand même quelque chose qui est ressorti ces dernières années avec la vague MeToo. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait quand même un sacré angle mort dans le milieu culturel et festif. Où bah, c'est très facile de se dire que tout va bien quand on veut pas regarder. Et oui, du coup, maintenant, ça fait peut-être 4-5 ans qu'on a embrayé là-dessus et qu'on essaie d'être vraiment attentif au bien-être de tous et toutes. Et c'est pas facile parce qu'en fait, bah, les choses se passent des fois dans des coins, dans des recoins. On ne voit pas tout. Mais on essaie que tout le monde ait un regard bienveillant et attentif sur les autres. Cette année, on a eu la chance de pouvoir faire une mini-formation, on va dire, avec le planning familial de Lozère, ouverte à tous les bénévoles. On devait être une soixantaine au moins, je pense. C'était mercredi soir. Mardi soir. Et c'était très, très bien. Je pense qu'on s'étalonne tous à avoir ce regard bienveillant dans le cadre du festival.
Et donc, tous les bénévoles en plus sont formés en tout cas à cette manière-là. Mardi, il y avait les personnes du planning familial pour venir les former, mais vous avez aussi une équipe entre guillemets spéciale avec un stand de prévention. Ça marche comment ça aussi si des gens seraient intéressés de venir ce soir par exemple, on peut voir des gens faire des rondes, on peut venir les voir, ça se passe comment ce stand de prévention?
Avant tout, c'est un espace d'accueil du coup où les gens peuvent venir se documenter, que ce soit au niveau de la RDR, du coup la réduction des risques liés au milieu festif, ou au VHSS, donc violence et harcèlement sexiste et sexuel. Du coup, c'est un espace où on peut venir se poser, discuter, boire de l'eau, parler du festival, de ce qui s'y passe, ou d'autres choses de la vie. Il y a des gens de tous les âges et un peu de tous les endroits qui viennent nous voir, donc c'est cool. J'ai l'impression qu'avec les années, c'est un endroit qui est de plus en plus normal. Les gens viennent juste là parce que c'est un endroit où ils peuvent se poser et boire de l'eau et discuter, et pas parce qu'ils sont dans le mal ou qu'il s'est passé des choses pas cool. C'est aussi un endroit où derrière, il y a des gens qui peuvent se reposer en étant un peu plus à l'écart de la fête. Si c'est quelque chose qui est sécurisant pour elle. Et en plus de ça, du coup, on a aussi une partie de l'équipe Prev qui, à partir de 22h, fait des maraudes sur le site, du coup, qui fait des rondes juste pour vérifier que tout va bien et qu'il n'y a pas trop d'angle mort, ou aller tapoter sur l'épaule des gens qui sont allongés pour voir s'ils font une sieste ou s'ils se vomissent dessus.
Il en faut, en tout cas, effectivement, pour réduire au maximum les risques. Autre chose aussi que je voulais évoquer avec vous, tant qu'on a l'équipe du Roadboy avec nous pour cette première partie, c'est aussi tout ce que vous mettez en place, mais c'est en lien avec ce que nous disait tout à l'heure Émilie sur le projet de territoire, c'est aussi l'attention faite à l'écosystème, à l'écologie, également aussi le circuit court. Il me semble que, par exemple, notamment cette année, mais même dans les cuisines, ce qu'on donne à manger aux bénévoles, etc., il y a une vraie attention de consommer au mieux possible.
Oui, je crois que ça fait aussi partie de l'identité du Roadboy. Pareil, je regarde sur ma droite. De faire attention à ce qu'on consomme, comment, qui le fabrique, du mieux que l'on peut. Et ça passe par les aliments aussi. Et l'équipe cuisine est quand même assez dédiée et très inventive pour amener des plats super chouettes pour donner de la force sur ce temps de festival. Donc c'est un simple retour qui se fait assez naturellement. Mais sur la cuisine, Dimitri, peut-être t'as...
La cuisine, c'est important. Et puis, c'est aussi important de faire marcher les acteurs locaux, quoi, en fait. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de trouver des producteurs au plus proche, bio ou pas bio, mais en tout cas locaux. Et puis après, on complète quand même un petit peu. Et voilà.
Puis aussi peut-être, est-ce que le fait qu'on soit en zone d'attraction du parc national des Cévennes, et même on y est presque, là, si on fait, si on marche 5 km, on est carrément en zone cœur, c'est quelque chose aussi qui est important pour vous?
Bien sûr, oui, bah, on est dans un cadre qui est complètement privilégié, et puis on en a toujours joué, parce que ça fait 22 ans qu'on est au sens du Lot, et dans un milieu semi-désertique, comme on aime bien dire. Et l'idée, c'est pas du tout de pourrir le cadre et de laisser nos poubelles derrière. Donc, on est vraiment sensible à ça depuis très longtemps. Ouais.
Et puis aussi, peut-être, là, on parlait écologie, mais ça rime aussi, ça peut rimer en tout cas des fois avec économie. Parler un peu d'un festival, on entend depuis des années des baisses de subventions, de la culture, ce genre de choses. Parfois, des gens qui. Le premier poste qu'on veut réduire, ça peut être la culture. Mais j'ai par exemple devant moi là, des études du CNM ou même de l'Union européenne qui montrent qu'un euro investi dans la culture, ça peut rapporter parfois, j'ai des chiffres qui disent 4 euros, mais jusqu'à 11 euros. C'est ça aussi, faire vivre le territoire, ça veut dire que là, un festivalier, peut-être qu'il a pris une chambre d'hôtel hier, il va boire son café chez le commerçant d'en face, il fait vivre ça. Vous arrivez encore à faire passer ce message-là avec les acteurs locaux?
Oui, je pense qu'en tout cas les commerçants en ont complètement conscience, parce que c'est vrai que là sur une semaine de festival, c'est un chiffre très important pour eux. Et les festivaliers clairement jouent le jeu à fond. Enfin, j'étais encore dans le village au bar tout à l'heure, des festivaliers qui nous disent prenez 5 euros de plus sur la carte bleue pour soutenir le festival. Je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, ils ont complètement conscience de d'où va l'argent, dans quoi il va, et qu'il n'y a aucun enrichissement personnel. Donc, tout le monde joue le jeu et ça marche très bien.
Et bah, merci pour toutes ces explications. Peut-être qu'on va pouvoir passer à une petite page musicale avant de récupérer notre comédien qui vient d'arriver juste avant. Il s'est changé, il a fait un spectacle, on va reparler avec Valentin juste après, mais on va faire une petite pause musicale et ça va être tout de suite Schlass. On va écouter Schlass, un duo qui jouera ce soir à 22h. Donc,
ça va être énorme.
Si vous nous écoutez encore et vous êtes toujours en Lozère à Mende, prenez la voiture, vous arrivez encore à l'heure pour pouvoir voir et le premier concert et Schlass à 22h. Donc on va s'écouter tout de suite Schlass, tutu tout le monde, pardon. Et pour une fois, il y aura au moins de la bonne musique sur Radio Barthas.
Je commande mes armes aux marchands de sable, mes mitraillettes au Père Noël. Je vois ma grenadine, grenade je découpille. Dans mon cartable y'a mon AK, je vais tout faire péter comme à la télé. C'est ChatGPT qui me l'a proposé. Merci.
Vous êtes bien sur Radio Bartas et sur 48 FM pour cette émission spéciale en direct du Blémar depuis le festival Dolt. On écoutait à l'instant le titre Tutu tout le monde de Schlass qui seront sur scène à 22h ce soir. Alors Schlass, pour vous en dire juste un petit mot, c'est un duo composé de Charlie Dirty et Daddy Schwartz. Et la légende raconte qu'ils se sont rencontrés en 2012 dans un colloque de développement personnel par le yoga du cri. Suite à cette rencontre coup de foudre, ils forment le groupe Schlass avec Kiki, le beatmaker gourou spécialisé dans le coaching par massage intérieur, et Meki, enfant indigo, vidéaste au taux vibratoire exceptionnel.
Ouais, moi ça va vraiment me plaire, je pense que c'est un peu mon coup de cœur musical, j'ai hâte de les écouter ce soir. Mais donc Holt depuis 22 éditions, ce sont donc des concerts le soir mais aussi des spectacles la journée. Il y en a une dizaine de programmés cette année avec malheureusement une annulation pour cause de météo, celle du spectacle de la compagnie Pernette, Oui la peau des arbres, qui sera reporté plus tard avec les scènes croisées. Donc amis losariens, losariennes, n'ayez pas peur, vous pourrez les retrouver plus tard dans la saison culturelle. Mais donc parmi de ces spectacles qu'on a eu la chance de voir notamment aujourd'hui, il y en a un qui vient tout juste de terminer, c'est Playback FM, un seul en scène écrit et joué par Valentin Dilas, un spectacle présenté comme un théâtre radiophonique. Et donc forcément avec Raphaël, ça nous a intrigués. Extrait.
Dalida a voulu mourir en absorbant une grande quantité de barbiturique. La nouvelle est tombée cette nuit sur nos téléscripteurs. Les médecins qui la soignent à l'hôpital jugent son état très grave.
Tout simplement parce que nous avons, contrairement à ce que vous pensez, nous avons besoin d'idoles.
Vous avez besoin, vous les détruisez, les idoles, très facilement.
Oui,
alors
nous
comme
avons...
vous faites vos idoles, le moment que ce pauvre idole ou est malade, ou elle traverse un moment difficile dans sa vie et a besoin d'être aidée, c'est le moment où les ruiner.
Bonsoir Valentin Dilas.
Bonsoir.
Alors, donc, c'était qui cette voix qu'on vient d'entendre?
Ça, c'est Maria Callas.
Maria Callas.
Un peu mon artiste préférée du monde et la plus rigolote à playbacker.
C'est ça, c'est donc une des nombreuses voix que tu incarnes pendant ton spectacle Playback FM. Donc c'est un peu explicité dans le titre déjà, mais nous on a eu la chance de le voir là juste à l'instant avant que tu arrives. C'était vraiment génial, bravo d'abord.
Merci.
Et pour ceux qui ne t'ont pas vu mais qui pourront peut-être te voir un jour ailleurs, est-ce que tu peux un peu présenter le concept ?
Ouais, le concept, c'est un montage sonore de prises de parole médiatiques et politiques qui sont réincarnées sur scène, donc dans le playback, donc de la synchronisation labiale. L'idée étant avec ça de aussi nommer tout ce qui est dans le hors-champ, tout ce qui, tous les silences, qu'est-ce que racontent les silences, qu'est-ce que veut dire une personne. Je rebondis sur Maria Callas parce que c'est sa troisième interview avec Bernard Gavotti. On la voit un peu évoluer au fur et à mesure des années, au fur et à mesure, elle aussi, de son art, de son français qui devient de plus en plus parfait et d'un côté aussi un peu détendu, presque dédaigneux qu'elle finit par avoir, et elle finit aussi avec une colère. Enfin, il y a toute une progression de sa vie d'artiste qui je trouve est très présente dans les interviews et les enregistrements, et généralement c'est ça qui me plaît le plus dans les extraits choisis.
C'est d'incarner le hors-champ, mais alors il y a certains extraits, c'est de la radio. Alors comment, sur quelle image tu te bases pour pouvoir toi-même mimer et incarner le corps?
Vraiment, c'est purement sur le son. C'est-à-dire, une fois que l'image n'existe plus, et juste cette manière de parler, on a tous et toutes une manière de parler très à nous. Ça, pour le coup, il y a un volume 2 où on fait une grande collecte de témoignages et on a interviewé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans toute la francophonie. Et je ne m'étais pas, je crois, rendu compte avant de faire ce collecte de témoignages à quel point personne n'a la même voix, en tout cas la même manière de parler, les mêmes tics de langage, les mêmes hésitations, les mêmes erreurs. Il y a un truc assez dingue et précieux par rapport à ça, sur le... chacun a sa voix.
Et alors c'est ça qui t'a intéressé, enfin, c'est quoi la genèse? Pourquoi est-ce que t'as voulu monter ça? Pourquoi avec ces séquences médiatiques, politiques? J'ai lu quelque part que tu disais un peu que c'était les médias qui t'avaient appris à parler.
Oui. J'ai regardé la télé, je pense, beaucoup, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je parte de chez mes parents. Et donc, il y a eu un peu un que faire de tout ce temps perdu. Il y a eu de ça, donc la plus grosse partie des banques de données audio, on va dire, elles viennent quand même de là. Et après, ça, c'était une chance assez énorme. Ce spectacle, c'est quand même beaucoup construit avec le public. C'est-à-dire qu'il est né quand j'étais bénévole, un peu en off. C'était 15 minutes dans un festival en 2021. Et de là, c'est aussi parce que le public en demandait un peu plus et avec qui on commençait à avoir beaucoup d'échanges et de débats sur nos rapports aux médias,
à donner d'autres sources. Bah tiens, tu connais pas Discorama avec Denise Glaser? Ah, oh, si, c'est super. Dadadadada. C'est comme ça que le spectacle a grandi à 20 minutes, puis 30, puis 40, puis une heure. J'y aurais jamais cru de moi-même qu'un spectacle d'une heure en playback, ça puisse tenir la route.
Ouais, bah on recommande en tout cas, et justement avec Thomas, on se demandait un peu, parce qu'il y a des séquences donc, qui sont un peu emblématiques, connues un peu de tous, des séquences médiatiques, notamment on peut penser à Gainsbourg et Whitney Houston,
tout
on peut imaginer que tout le monde aura cette séquence-là en tête où il tient des propos vraiment insupportables à Whitney Houston. Mais il y en a d'autres, on se demandait, mais comment est-ce qu'il fait ses recherches, dans quelles archives tu puises, mais donc
YouTube.
Voilà, YouTube.
Ah ouais, YouTube.
Et les recommandations donc, du public.
Oui,
YouTube, ok.
Et cet extrait Gainsbourg, Whitney Houston, il est aussi quand même, je dirais, la pierre fondatrice un peu de ce projet, à savoir, lui, il est passé à tous les bêtisiers télé de Noël, toutes les années, et il me faisait un peu mourir de rire à l'époque, jusqu'à un moment où ça a arrêté d'être drôle, aussi parce qu'on a commencé à se dire, tiens, au-delà de la blague de cet homme qui se permet tout, qu'est-ce que pense la personne en face? Et se mettre à la place de la femme n'était pas une chose si aisée, j'ai l'impression, dans les années 90, malheureusement, là où je suis né. Et ça commence à être le cas, enfin. Et tous les choix de ces extraits jouent aussi beaucoup là-dessus. Sur tiens, pourquoi tel extrait avait telle résonance à cette époque? Et qu'est-ce qui change, se durcit ou au contraire s'appauvrit avec le temps?
Et ces différents extraits, mais une fois que tu as dit, tu n'aurais jamais cru que ça tienne une heure au début, mais à la fin, au final, il y a un fil rouge quand même.
Oui.
Les extraits se répondent. Ça, qu'est-ce que le fil rouge, tu l'as construit un peu et comment et qu'est-ce que tu as voulu un peu raconter à travers ce fil rouge?
Le fil rouge, il s'est construit par, même si c'est un peu truqué dans le sens où, encore une fois, tout vient de YouTube, mais dans l'idée, c'était tiens, quel mode d'expression médiatique. Il y a quatre séquences en gros, une séquence plutôt radio, une séquence plutôt télé, une séquence plutôt ciné, une séquence plutôt internet. Chaque séquence et chaque moyen d'expression médiatique a son, on va dire, son thème. Radio, c'est plus justement des artistes, dont Mara Callas, Brel et compagnie, qui parlent de justement la création et la vie d'artiste. Télé, c'est purement politique, des débats politiques, et qui sont de plus en plus minables, pour rester poli. Cinéma, c'est la domination masculine sur les femmes, et l'internet, c'est un peu une tentative d'amour qui marche pas forcément.
Mince, on est parti avant Internet, je crois. Parce qu'on a dû venir installer le plateau radio, on a loupé la dernière partie.
J'avais aussi une question, notamment liée à la radio, où tu disais il faut s'imaginer le corps de la personne qui parle. Elle est crispée, ou alors d'autres éléments joyeuses, etc. Est-ce que toi-même, en tant qu'individu, t'as un amour pour l'audio, le fait que voilà, la radio, c'est pas nous qui allons dire le contraire, on adore la radio parce que moi aussi petit, on s'imaginait le physique des animateurs, on n'avait pas encore internet ou ce genre de choses. T'as toujours eu ça aussi, de l'amour de l'audio, peut-être, je sais pas, t'es un auditeur de podcast ou ce genre de choses, mais tu aimes la ressource audio?
Alors, énormément, ouais. Et en même temps, bizarrement, j'ai un gros souci avec l'image. Je pense à cause de ces 18 ans de même la radio, je l'écoute souvent en la regardant.
Donc la radio filmée, c'est l'enfer.
C'est l'enfer, je suis d'accord, mais il y a un truc où j'écoute limite plus de radio aujourd'hui. Enfin, il y a eu un moment où, avec l'arrivée d'Internet, le post-radio s'en est allé. Il est beaucoup revenu sur YouTube, encore une fois, parce qu'elle est filmée. Donc je le regarde à moitié, je l'écoute plus que je ne la regarde, mais le support image, malheureusement, est
important.
Ouais, reste, m'accroche plus, alors qu'à côté de ça, je veux dire, j'écoute plus de radio qu'autre chose, mais je l'écoute en la regardant. J'avoue, j'ai honte.
Et parmi toutes les personnes donc, que tu playback dans le spectacle, la plupart sont vraiment de très bons orateurs. C'est des gens qui aiment parler, soit parce qu'ils sont comédiens ou artistes. Enfin, voilà, y a même Barbara dans sa façon de parler. Enfin, c'est des grands orateurs. Est-ce que toi, en tant que comédien, c'est aussi un peu une obsession d'être un bon orateur? Et qu'est-ce que ça veut dire, être un bon orateur?
Je n'ai pas encore la réponse. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelques personnes qui donnent des pistes, à savoir préparer un discours quand on doit faire un discours, et ne surtout pas dire qu'on n'a pas préparé de discours en commençant son discours, comme le fait Sophie Marceau à Cannes en 98, malheureusement pour elle.
Un des extraits qui est dans ton spectacle, qui est édifiant.
Et j'ai pas de réponse plus précise que être honnête avec là je tremble, là il se passe ça, là ça me fait penser à ça, là pardon je me suis perdu. En tout cas, ne jamais essayer de
faire semblant.
De faire semblant et d'être un peu autre chose que ce qui est en train de se passer là maintenant. J'ai l'impression que c'est quand même une grosse piste qui met tout le monde de façon honnête sur « il est en train de se passer ça, je vous livre ça, faites-en ce que vous en voulez ».
Mais c'est exactement ce que dit Barbara dans l'extrait justement que tu diffuses, où elle demande à la personne qui l'interview de pas la vouvoyer parce que sinon il serait dans le faux.
Totalement.
Donc voilà, l'important c'est d'être honnête en fait.
Et c'est donc cette Denise Glaser dans Discorama. Et parce qu'elles se connaissent très bien et qu'elles sont amies, donc elle lui dit « on va pas faire genre, on se vouvoie et... » et on met une distance alors qu'en fait on est potes à côté quoi.
Et nous on se tutoie alors qu'on se connaît pas.
Tout mais à fait.
On est sur Radio Barta, c'est 48 FM donc ça c'est ok. Et donc bah, tu l'as un peu évoqué en disant que tu avais noté une certaine évolution dans la manière dont les médias se comportent, on pourrait dire ça. Mais globalement, toi, ça serait quoi ton opinion aujourd'hui ? Et aussi, pas que critique, parce que bon, on est quand même aussi dans un contexte où il y a quand même une certaine défiance médiatique, il y a la prolifération des fake news. Donc les médias sont quand même importants, même s'ils peuvent être insupportables. Toi, quel regard tu portes aujourd'hui sur les médias ?
Ce regard-là, et aussi avec ce spectacle, il est quand même très très lié. De base, il était très très lié à la télé. Malheureusement, il devient, à cause d'un milliardaire dont on taira le nom, il se manifeste dans beaucoup de moyens d'expression médiatique, que ce soit radio et presse. Là, il y a un peu un truc aujourd'hui où franchement, je peux pas dire que je suis méga optimiste sur l'avenir médiatique de manière générale avant la mort, pardon pour lui, hein, ou pas, et où la révolte qui est en train de se passer face à des personnes qui monopolisent le terrain grâce à leur argent en diffusant leurs idées très fascistes. Donc là, actuellement, aujourd'hui, ouais, je ne suis pas dans un optimisme fou par rapport aux médias. Il y a eu un début de... Tiens, une manière de s'informer aussi autrement qui commence à être complètement biaisée, aussi pour rester poli, avec l'intelligence artificielle, avec Internet. Il y a un truc qui est un peu compliqué, je trouve, là, aujourd'hui.
Peut-être une question là-dessus sur le discours médiatique qui change et on a de plus en plus... j'ai l'impression que ça se multiplie, les séquences parfois totalement invraisemblables. Je pense même à... C'est que les prises de parole de Trump, encore très récemment, un président, il y a 50 ans, on aurait dit qu'un président des États-Unis pourrait mettre bim bam boum comme tweet par exemple pour parler géopolitique. Mais en fait, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour toi de se dire, entre guillemets, de dire, mais j'ai une ressource de dingue quoi.
Alors oui et non, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas nommé, c'est quand même tout du long du spectacle, le levier qui est activé, c'est la caricature, selon certaines personnalités qu'on connaît, comme Gainsbourg ou autre. Et surtout le pastiche, c'est-à-dire réactualiser des codes d'une autre époque à notre époque actuelle. Le fait est qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est très compliqué avec Trump, avec Pascal Pro et avec tous les autres sbires de ce milliardaire dont on taira le nom, c'est qu'ils en arrivent à un niveau et un tel degré d'absurdité qui sont plus parodiables. On ne peut pas parodier de la parodie. Et ils ont réussi à activer cette chose qui fait qu'ils sont presque un peu inattaquables parce que c'est tellement énorme que même essayer de le parodier derrière, ça ne marcherait pas. Il y a vraiment ce levier-là qui est en train de se mettre en place de qui racontera la plus grosse dinguerie, qui fait que ouais, c'est très difficile de les parodier, ces personnes-là. C'est très difficile de parodier Hanouna, c'est très difficile de parodier Pro. Il y en a des très bonnes, hein, des parodies, mais il y a quand même ce truc où, des fois, la parodie, elle vient tellement d'eux-mêmes que c'est dur de faire plus. Et c'est ça qui est très dangereux.
Et alors, au-delà de ne pas parodier Trump, justement, dans tes spectacles, c'est quoi la suite pour toi, pour ce spectacle-là, ou peut-être pour d'autres qui arrivent, pour ceux qui nous écoutent, qui espéreraient te revoir ?
Bah, la suite, c'est le volume 2 qui est sorti là il y a un an, et qui du coup est plus donner la parole, non plus à des personnalités médiatiques et politiques, mais au public, déjà du volume 1, et au public qu'on rencontre dans la rue et en micro-trottoir, pour vous dire c'est quoi toi tes souvenirs médiatiques qui t'ont marqué, et c'est quoi toi ton rapport aux médias ? Je crois que c'est ça la suite logique, c'est plutôt donner la parole aux humains plutôt qu'aux gens de pouvoir.
Mais je me dis que ça pourrait être quand même marrant de mimer ChatGPT, d'essayer de mimer un discours produit par ChatGPT par exemple. Je sais pas comment tu pourrais l'incarner physiquement, un
très
petit challenge.
Bonne question, mais tu veux dire cette petite voix robotique quand tu... Oui, ça peut. Elle risque d'arriver, il y a un volume 3 qui est en préparation, elle risque d'y arriver. Ça va parler de l'intelligence artificielle notamment.
Oui. Et est-ce que tu rejoues peut-être dans le coin bientôt ?
Où est-ce que c'est le coin ? Bah, le coin le plus proche, je pense, ça sera l'été de Vaour, début août, le 4 août. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si, dans le Cantal, on fait une tournée avec Éclat, du coup, du Festival de Réac, Chant Libre, et ça, c'est de fin juillet à début août. C'est pendant toute une semaine dans plein de villes et villages du Cantal.
En tout cas, on peut retrouver toutes les dates, toutes les infos sur le site de ta compagnie de
tout
diffusion.
Tout à fait, pqtm.fr pour les productions pour que tu m'aimes et sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Valentin, donc Dilas, D-I-L-A-S, sur les réseaux aussi et pqtm sur les réseaux.
Eh ben, merci beaucoup,
merci
Valentin, d'être passé. Tu peux rester avec nous si
avec
tu veux,
joie.
Car la suite du plateau va peut-être t'intéresser. On va parler d'un autre spectacle qui joue aussi autour du médium radiophonique sonore, du moins. C'est Au coin de ma rue. Et on est ravis de recevoir Vincent Zabus. Salut Vincent.
Salut.
Merci d'être venu aussi dans notre petit plateau radio éphémère. Donc toi, tu es l'un des deux co-auteurs du spectacle avec Nicolas Truon. Le spectacle, c'est donc Au coin de ma rue. Vous avez joué aujourd'hui déjà et vous rejouez demain, un peu en continu, donc le matin de 10h30 à 11h45 et l'après-midi de 15h à 16h15.
Je crois que c'est demain après-midi, c'est de 13h30 à 14h45 et puis de 16h30 à 17h45.
Voilà, vous pouvez retrouver de toute façon les horaires sur les supports de com du festival Dolt. Alors, qu'est-ce qui se passe au coin de votre rue ?
Eh bien, au coin de la rue, il y a un monsieur tout le monde qui passe avec un sac en plastique, qui a l'air hésitant, qui regarde un peu une maison, qui s'assied sur un banc, qui regarde un paquet de cigarettes, donc il fait des actions très banales. Et puis en face de lui, il y a un gradin avec une trentaine de places et où chaque spectateur et spectatrice se sont assis, ont mis un casque et entendent une histoire qui est en lien avec l'action qu'il fait. Et toute l'originalité du projet, c'est qu'une fois que cette action a été jouée pendant 4 minutes, le comédien, le monsieur tout le monde fait le tour et puis on demande aux spectateurs, aux spectatrices de bouger de place. Ils se mettent ailleurs, ils mettent le nouveau casque qui est en dessous de leur siège et le comédien refait exactement la même chose, mais eux entendent une toute autre histoire. Puisqu'en fait, on a écrit 30 histoires qui fonctionnent avec cette petite déambulation de 4 minutes dans l'idée qu'on voulait s'interroger sur qu'est-ce qu'un monsieur tout le monde peut cacher comme vie. Ou tiens, on veut remettre les spectateurs, ils sont assis à une terrasse de café et puis il y a quelqu'un qui passe et puis on ne peut pas s'empêcher d'imaginer un peu sa vie. Parce que la personne est un peu étrange ou, et, on, voilà, et donc on remet les gens dans cette situation un peu inspirée par Pérec ou Queneau. Un exercice de style.
Voilà, un exercice de style très original, donc inspiré, tu l'as dit, notamment par Georges Perec. On peut rappeler qu'il a écrit un petit livre qui s'appelle « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien ». Et en fait, il avait passé 3 jours sur la même place, la place Saint-Sulpice à Paris, et il décrivait tout ce qu'il voyait. Mmh. Et ce qui l'intéressait, en fait, c'était ce qui se passe quand il ne se passe rien d'autre que juste le temps qui passe.
Oui, 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 avec Nicolas, on est intéressé par l'idée de l'infraordinaire, c'est-à-dire que l'originalité derrière la banalité. Et c'est vrai qu'en se mettant cette contrainte-là, ça nous oblige, en tant qu'auteur, à creuser. Parce qu'évidemment, on a facilement 4-5 idées chacun, et puis bon, on en fait 10, et puis 15, et puis 20, et puis comment est-ce qu'on va encore surprendre les gens qui vont nous écouter avec un nouvel angle de vue, une nouvelle voix. Et voilà, c'est intéressant comme ça de creuser aussi, d'habiter l'espace public de façon original, puisque là on est en spectacle de rue, mais c'est très calme, très posé comme spectacle. Il faut accepter on doit attendre peut-être une demi-heure puisqu'il n'y a que 30 places avant de rentrer, mais c'est pas grave, on choisit d'être là, on prend le temps, on croit qu'on va écouter que 2 histoires et puis on se prend au jeu, alors on en écoute 10, on reste 1h30. Donc et ce qui nous amuse aussi, c'est se dire qu'il y a le comédien qui passe dans la rue, mais la rue continue à vivre, et donc il y a des vrais passants, il y a la madame qui sort avec ses courses, et donc il y a une espèce de frottement poétique où il se passe des choses. Moi, je sais qu'il y a une des histoires qui s'appelle L'Enfer, et on entend la voix qui dit « je vais me réincarner dans un chat ». Et il y a 3 semaines, il y avait un chat qui me suivait, et je me suis penché à ce moment-là, et au moment précis où cette phrase était dite. Donc il y a une dame qui a crié dans le gradin, parce qu'elle voyait bien que c'était évidemment improvisé avec le chat. Et donc il y a des petits frottements poétiques comme ça qui sont liés à l'espace qu'est la rue et qui sont intéressants.
Et c'est d'ailleurs un spectacle que vous avez vraiment pensé pour la rue, qui est uniquement possible dans la rue. C'est très important pour vous, la rue. D'ailleurs, vous avez un manifeste sur votre site. Je n'ai même pas donné le nom de votre compagnie, d'ailleurs. C'est la compagnie des Bonimenteurs. Donc, le manifeste, c'est le manifeste des Bonimenteurs. On peut le trouver en ligne, www.lesbonimenteurs.be. Et vous dites, la rue est un laboratoire d'humanité. J'ai lu ça. Et la rue, c'est un théâtre, donc, aussi.
Oui. Mais en fait, ça fait 30 ans qu'on fait du théâtre de rue. Et à un moment, on peut vite s'épuiser parce qu'il y a quelque chose quand même qui est fatigant d'être confronté toujours à la possibilité qu'il se passe quelque chose. Il y a un spectateur qui intervient. Donc nous, depuis 30 ans qu'on joue, il y a déjà des gens sous qui sont arrivés sur scène. Un orage qui s'est déclenché. Moi, je me souviens, on jouait l'Odyssée pour les nuls. On essayait de raconter l'Odyssée de fonctionnaires belges. Avait eu la grande idée de raconter l'Odyssée au bon peuple. Et au moment où Ulysse prend son bateau, il y a un vrai orage qui arrive au moment où on raconte la pluie. Tout le monde trempé, mais c'était tellement drôle qu'on est resté. Donc voilà, le fait d'inventer avec ce qui se passe est intéressant, mais ça peut être aussi épuisant. Et donc l'idée, c'est régulièrement, on essaye de trouver un nouveau biais pour à la fois surprendre le public et se surprendre soi-même. Et c'est vrai que l'humanité, notamment dans l'écriture, dans le rapport qu'on essaye d'installer, par exemple avec le public qui attend dans la file, Alors qu'on est bonimenteur, on a l'habitude d'aboyer, de gueuler un peu fort. Et on s'est dit, ben non, on va le prendre par en dessous pour essayer que finalement, dans la file, les gens qui attendent commencent à raconter un peu leurs propres anecdotes, leurs petites histoires à eux. Et c'est ça qui va être l'introduction, parce qu'après, ils vont entendre plein de petites histoires. Donc, on est là comme des déclencheurs. Et puis, quand on sent que ça prend, on s'efface comme ça petit à petit. Et là, quelque part, on faisait un contre-emploi par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Et aussi, c'est ça que les casques, par exemple, le travail sur l'audio nous a permis de rentrer justement dans l'intimité des gens, parce qu'ils entendent une petite histoire rien que pour eux. On a essayé de bien travailler les voix, bien travailler les sons pour vraiment essayer de les toucher. Et c'est évidemment un tout autre rapport que quand on est en grand focus, ce qu'on a déjà fait aussi avec 350 personnes. On est sur un plateau et il faut dégager autre chose. Et donc, on essaye toujours de renouveler à la fois la compagnie et la façon dont on va parler de l'humanité, essayer de toucher les personnes qu'on rencontre.
Et la rue, c'est aussi important parce que c'est un espace qui permet de toucher tout le monde, le théâtre de rue, même si on n'a pas pris sa place pour rentrer dans la salle, on voit ce qui se passe. C'est ça aussi qui vous importe avec les bonimenteurs ?
Oui, comme c'est un espace public, c'est un espace assez démocratique. Et en effet, même si je pense que tout le monde ne va pas forcément au festival de rue, mais quand même plus facilement qu'au théâtre, où on sait qu'il y a, je crois, 2% de la population qui franchissent. Je pense qu'ici, on touche quand même un public un peu plus large. Et puis, ce qui est bien, c'est quand on va des endroits un peu improbables, il y a les gens qui passent vraiment et qui s'arrêtent et qui se disent « Mais attends, c'est quoi ça ?» Et alors, on leur explique, on les invite à venir. Et alors, voilà, il y a des émotions. On a déjà eu des émotions avec un enfant handicapé qui, à un moment, a eu peur et sa maman a dû le gérer. Et puis, on a dû gérer tout le gradin. Donc, il y a des moments comme ça, improbables, qui nous ramènent et à l'instant présent et au fait que voilà, on essaye de faire société. Et le petit gradin, c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'à un moment on essaye que les gens se recommandent les histoires les uns les autres et s'aident. À un moment, quand il y a des personnes âgées qui doivent monter, c'est tout simple, hein, au troisième, mais c'est pas si facile de monter les petites marches, et on voit que rapidement il y a toujours un qui va faire voilà, et on trouve que c'est agréable d'essayer de s'emparer de l'espace public pour créer comme ça une relation entre les gens.
Oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, Valentin, c'est vrai que là, on a pu te voir nous juste avant dans le gymnase communal parce que par souci de météo, c'était le cas, mais c'est Playback FM se joue aussi et surtout dans la rue. Là, justement, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, est-ce que toi aussi, le côté de ne pas avoir le contrôle total, comme dans une salle, une boîte noire, mais c'est la vie, les gens passent et je fais mon spectacle avec, est-ce que c'est aussi important pour toi, pour ce spectacle Playback FM, entendre les gens réagir, bouger, crier, rigoler, c'est super important le spectacle de rue.
Oh oui, ouais. Ça permet pas mal de cadeaux, comme tu disais, de choses forcément qui sont pas prévues, surtout sur une bande-son qui elle est déjà très prévue. Oui, il y a souvent plein de belles choses qui se passent, que ce soit des animaux, des policiers qui passent au très bon moment, voilà. Il y a un peu la vie quoi, de la rue, et ouais, c'était un peu ça le fait de mettre un zapping sonore dans la rue qui en a un aussi. Comme si voilà, on avait les fenêtres ouvertes du voisin du deuxième étage et aussi de celui du troisième et de la voiture qui passe. Vraiment un zapping sonore de rue.
Et puis pour revenir sur la compagnie des bonimenteurs, il y a aussi un autre spectacle de votre compagnie qui résonne un peu avec celui-là. On venait de parler aussi de le casque, la petite histoire qu'on nous raconte. C'est parler un peu de médias, radio, en tout cas de journalisme. Et vous avez un spectacle, Les Faux Journalistes, qui met en scène Roger et Ginette, journalistes à Radio Bourrin, oui. La radio des Potins, une radio locale belge fictive, bien sûr. Oui. Là aussi, il y a une forme un peu d'art du commentaire avec des journalistes qui couvrent tout. C'est une question que je pose d'abord à vous, mais également à Valentin, le parler journaliste, c'est quoi un peu son potentiel comique ?
En fait, Bourrin, il faut savoir, je dis ça parce que vous êtes français, c'est que c'est le lourd de Belge. C'est-à-dire que la Vierge est apparue à Bourrin. Et alors, on a imaginé que le petit local de cette radio locale était juste derrière la grotte où la Vierge est soi-disant apparue. Et donc, nos deux pauvres faux journalistes, un homme et une femme, font un duplex culturel. Évidemment, ils sont complètement improbables. C'est un peu l'univers des chiens, si vous voulez. Et donc, quand ils vont sur un événement, c'est eux qui sont ridicules. Et alors, les gens se citent. Parce que ce qui est bizarre, c'est que le fait qu'on dise que c'est la radio, même si on est habillé vraiment rétro, décalé, les gens y croient quand même. Il y a ce drôle de truc, on, dit, on est en direct, là, et il y a un doute. Alors que quand on nous voit, franchement, il n'y a aucun doute, mais on le voit, y a, ça, du coup, ça crée une espèce de doute.
Une fièvre.
Oui, alors les gens essaient de nous sauver, évidemment. Et donc, ils meublent, ils commencent à faire des trucs, et alors ça donne des trucs très, très drôles. Et donc, c'est vraiment ce décage-là. Et quand on est en France et qu'on fait ça, je me souviens, on avait créé ce concept-là avec, pour Philippe Gelu, qui faisait l'Expo du Chat à Paris. Et comme j'ai quand même un accent belge, apparemment, moi je ne me rends pas compte, mais je crois que j'ai un accent belge, j'arrivais et pour eux, j'étais vrai. Parce que pour les Parisiens, c'était ça, l'accent belge. Et donc je racontais n'importe quoi et je voyais que ça flottait, mais ils répondaient pas mal. Et donc on se retrouve dans des situations souvent, souvent drôles et décalées. Et la force du micro, c'est que même si c'est n'importe quoi, ça donne une espèce de réalité qui crée un trouble chez les gens et qui amène des situations comiques.
Mais est-ce que votre idée aussi avec cet art du commentaire qui ne cesse jamais de ces Roger et Ginette, ces faux journalistes, c'était aussi un peu de critiquer cette nouvelle généralisation de l'info en continu et du commentaire incessant des journalistes qui finalement ne disent rien du tout?
C'est peut-être venu dans un deuxième temps. En fait, c'était pas une vraie idée. Ce qu'il y a, c'est qu'on a... On a dû aller une fois faire un contrat où il n'y avait rien à faire. Et puis, on s'est dit qu'on allait faire ça. Mais genre, la veille, à minuit, on est parti le lendemain à 8 heures, quoi. Et puis, on a vu que ça marchait. Et puis, en fait, on les a nourris petit à petit. Alors, on fait faire des jingles à bouche qu'on voit en Belgique à Radio 21. Et on entend Mick Jagger qui fait la promo. Alors, on fait faire des jingles à bouche. Et puis, on fait la minute cuisine. Et puis, on a commencé à développer. Et c'est vrai, quand on a vu, parce qu'on fait ça depuis longtemps, les chaînes en info continuent à arriver. Mais c'est ce qu'on fait. Sauf qu'on déblatère absolument n'importe quoi. Et ce qui est drôle, c'est que de nouveau, ce phrasé continue, à un moment, fait qu'on n'est plus écouté. On est entendu, mais en fait, on dit n'importe quoi, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et alors, on est dans un truc un peu surréaliste, dans un entre-deux, et on peut comme ça tenir... Et je me souviens, on avait, par exemple, vous voyez les frères Dardenne, les réalisateurs belges, parce qu'on fait ça dans les faits de cinéma, ils ont vraiment le sens de l'humour. Et à un moment, on venait près d'eux, et alors, dans une espèce de logorée pas très crédible. Et alors, ils se raccrochaient à quelque chose pour répondre quand même. Et c'est ça qui est drôle. Et puis après, quand ils ont compris que c'était de la blague, ils sont rentrés dedans à fond. Enfin, voilà. Donc on a des moments parfois agréables et des bonnes surprises aussi.
Toi aussi, on profite d'avoir Valentin avec nous sur ce plateau, avec un peu ton expertise sur l'audio, en tout cas le playback. Toi aussi, tu grimes un peu, tu as caricaturé ce parler télé ou radio, en tout cas journalistique, avec toujours un commentaire à dire. Je pense par exemple le journaliste qui pense bien faire en voulant rendre un petit hommage à Carlos. Et on sent qu'il a besoin de dire quelque chose, c'est ça. C'est aussi, ça te fait rire, mais en même temps, c'est pas si drôle. Le fait, comme on disait, les chaînes continuent et le commentaire permanent pour combler le vide.
Oui, complètement. Bah, y a un code journalistique qui évolue avec les époques, mais il y a une manière de parler, il y a une manière de faire. Le silence n'est pas trop admis, généralement, et c'est vrai que ce code-là est vite ridicule quand le code finit par ne pas être respecté par un trou de texte, par « tiens, ma fiche n'est pas finie et j'ai essayé de finir ma phrase, mais je ne sais pas comment la finir », par ce qu'on disait tout à l'heure, d'essayer de tenir bon et de faire semblant plutôt que d'être honnête et de dire « là j'ai un souci, pardon, on va reprendre ». Et donc ouais, quand ce code-là se casse la figure, c'est quand même assez jouissif.
Venez, on fait juste quelques secondes de silence pour montrer que nous, sur les radios associatives locales, on peut faire différemment. Du silence à la radio, ça n'arrive jamais. Ok, on reprend parce qu'on a quand même encore des choses à dire, mais on l'a fait. Moi, je voulais revenir, Vincent, sur le nom de votre compagnie, justement, parce que pour rester aussi dans cette idée de journalisme, Bonimenteur, donc c'est le nom que vous avez choisi. Derrière, vous mettez une connotation finalement assez positive, alors qu'on pourrait l'entendre autrement. Hein. Bonimenteur, ça peut être aussi assez négatif. Vous parlez de l'art du boniment, mais à l'ère des fake news, ça peut être aussi un peu particulier, parce que du coup, qu'est-ce que c'est finalement un boniment ?
Mais c'est par le verbe donner envie d'aller voir quelque chose, du moins quand c'est comme ça, culturel. Mais c'est vrai que je pense que ça repose sur la complicité. C'est-à-dire qu'on a le droit de raconter n'importe quoi à partir du moment où on sait que c'est ça la convention. C'est-à-dire que quand les gens nous écoutent, ils savent qu'on est là pour ça. Donc en fait, on ne les arnaque pas. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme un défi, on va vous faire rêver en vous bonimentant quelque chose. Et il dit, ah ok, mais alors comment tu vas nous le vendre? Comment tu vas nous donner envie d'aller voir ce spectacle? Et si on s'appelle comme ça, c'est parce qu'on est né au Festival Namur en mai, il y a 30 ans, en Belgique. Au départ, on ne faisait que ça du boniment, donc on était des aboyeurs devant la baraque foraine et on interpellait les gens pour qu'ils viennent voir ce qui se passait. Ou quand il y avait une erreur de programmation, on disait, attendez, c'est plus là, il pleut, c'est sous chapiteau, et on emmenait les gens. Et donc, on n'avait pas de spectacle au départ, on était vraiment que bonimenteurs. Dans un premier temps, on avait des personnages, on inventait des personnages, puis on s'est dit, non, on doit simplifier juste nous-mêmes, avec un côté un peu up, un peu grandi. Et on improvise sur le moment, sur la convention de « on va vous donner envie de nous écouter ». Et puis de là, on a développé l'art de la parole et on a commencé à développer des spectacles, petit à petit.
Et j'ai cette notion de bonimenteur par rapport aux œuvres de Brecht, et je pense au bonimenteur du coup, qui va raconter des choses totalement absurdes, mais justement pour créer cette distanciation et faire réfléchir les gens. Est-ce qu'on retrouve ça aussi dans les spectacles?
Oui, mais dans le meilleur des cas, quand on est inspiré, oui, c'est justement ce délire verbal qui crée un plaisir. C'est comme une musique, une attente. Et c'est vrai qu'on a un rapport brechtien aussi au public, puisque forcément, on fait du théâtre épique, puisqu'il peut... Il n'y a pas de quatrième mur parce qu'on s'adresse directement aux gens et qu'il va forcément à un moment se passer quelque chose d'imprévu qui est toujours le meilleur moment. Quand on a joué il y a 3 semaines, je suis sûr que la dame, elle se souvient que le chat est passé ou je le regardais et que c'était totalement improbable. C'est cette magie-là. Et alors l'invention, on ne l'a pas chaque fois, malheureusement, hein, quand on invente. Donc moi, par exemple, à force de bonimenter, j'ai des phrases clés. Et souvent, quand je démarre, avec les faux journalistes, c'est pareil. Et puis après, quand je suis chaud, depuis une demi-heure, et que hop, je commence à pouvoir vraiment inventer sur le moment et avec le public. Et là, on sent qu'il y a un plaisir, comme si la convention était respectée, qu'on avait réellement inventé quelque chose de neuf sur l'instant.
Bah merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Même question que j'ai posée tout à l'heure à Valentin. C'est quoi le programme pour les bonimenteurs cet été? Où est-ce qu'on peut vous suivre ou revoir pour celles et ceux qui n'auront pas la chance de vous voir ici à Holt?
Je pense que le week-end prochain, on joue à Paris. Et puis le week-end suivant, on joue à Nanterre. Et puis après, je ne sais plus trop, mais je sais qu'on va passer 15 jours à Villeneuve, au Festival de Villeneuve et des Avignons, pendant le Festival d'Avignon, programmé par le Théâtre des Dons. Et là, on reste 2 semaines tout le temps du festival.
Et on peut retrouver toutes ces infos donc, sur votre site www.lesbonimenteurs.be. Bah, merci encore à tous les deux pour cet échange autour de vos spectacles respectifs. Et tout de suite, on écoute un peu de musique avec Why the Eye et leur titre Inspirex.
Respiration et exhale. Minimolt
ou Maximolt.
Tendez votre oreille vers un nouveau monde aux proportions instables. Il est 19h et les poussières, et vous embarquez pour une petite heure de grandes rencontres grâce à une collaboration de petits médias. Comme chaque année, 48FM et Radio Bartas vous proposent leur plateau en direct du Festival d'Olt.
Et oui, retour en direct du Blémar pour cette dernière partie d'émission en coplateau avec Radio Bartas et 48FM. On vient d'écouter le générique de l'émission, mais juste avant, c'était YDI Inspirex, c'est mieux dit comme ça, qui seront en concert demain à 21h pour cette 22e édition du Festival d'Olt. Et donc, retour en plateau un peu pour cette dernière partie d'émission avec notamment FIF. T'es parti un peu te balader et tu reviens pour ce plateau. Et puis on a également Camille, coordinatrice et chargée notamment de la programmation du festival. Salut Camille.
Salut.
Et donc oui, voilà, l'idée c'est un peu de parler de qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter encore ce soir et demain, et même aussi des spectacles qui auront encore demain dans la journée. Là peut-être FIF, je te donne un petit défi. Il est 20h30, il faut à peu près le temps de se garer une demi-heure de route qu'on habite à Mende pour venir au Blémar, on va dire. Comment tu donnerais envie en 30 secondes à un auditeur, une auditrice pour venir monter au Blémar pour écouter le premier concert qui commence dans une demi-heure?
Eh ben, je dirais que ça va être sans doute la soirée la plus énergique et énervée du festival. Donc si vous avez envie de vous défouler un peu, c'est ce soir qu'il faut venir et rester après pour le reste. Et je pense qu'en termes de découverte aussi, c'est cool de venir ce soir parce que ça sort un peu plus des sentiers battus que demain. Même si demain, ça sera super aussi.
Et donc on va démarrer effectivement, là je dis, c'est pour ça que là, écoutez-nous dans la radio, débranchez le poste, rebranchez-le dans la voiture, mais dans une demi-heure, qu'est-ce qu'on a? On a Nuit.
Ouais, c'est ça, dans une demi-heure, il y a Nuit, dont j'avais déjà parlé quand on était passé à 48FM, qui est un peu, moi, mon coup de cœur niveau prog de ce festival-là. Donc elle fait de la chanson occitane, mais en revisitant le tout avec des drones, des synthés et des machines qui distordent un peu le tout. Du coup, ça fait... un truc à la fois très doux et assez grinçant qui finit par bien bouger, du coup c'est chouette pour ouvrir la soirée. Je pense que c'est vraiment à pas rater.
J'ai oublié que j'étais aussi sur Radio Bartas, donc je dis on peut venir de Mende, mais aussi de Florac, faut pas non plus oublier les Florac.
Un poil plus long, mais c'est possible.
Voilà, donc là si on part maintenant, on arrive presque tout pile quoi. Ouais. Et donc également, on l'a aussi écouté en première partie d'émission, juste après cet artiste qui vient de Rennes, on aura Schlass. Et là, tu disais, si on est énervé, faut venir à ce concert, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah après, faut rester tranquille quand même et guetter le consentement des autres gens quand on danse en étant énervé. Mais oui, carrément, Schlass, c'est cool pour continuer de se défouler. C'est des gens qu'on avait envie de faire venir ici depuis un bon moment et qui ont ressorti un album cette année. Du coup, ça va être cool de découvrir ça sur scène ce soir. Et après ça enchaîne avec Feramia, donc de la trance rock occitane, ça revient sur un truc un peu plus instrumental. Et c'est un peu dans la même veine que Edredon Sensible qui était passé par chez nous il y a de ça quelques années et qui avait convaincu nombre de festivaliers et de festivalières, donc j'ai rien à en dire de plus, je sais que ça plaira.
Venez. Et puis peut-être... Tant qu'on parle de la programmation de ce soir, c'est aussi peut-être l'occasion de parler, vous, ça se passe comment, le choix des artistes, la programmation, peut-être Camille, comment on choisit une programmation qui doit plaire avec une ligne artistique, entre guillemets, qui est propre à Olt, où les gens viennent aussi pour ça, et même aussi pour le spectacle d'ailleurs, vous choisissez vos spectacles et vos concerts comment?
Alors c'est un travail assez collectif et sur la partie musique, bah, c'est plutôt FIF avec Numa qui s'occupe de repérer les groupes et d'inviter les artistes. Donc il en parlera mieux que moi.
Et puis donc c'est plutôt la partie spectacle vivant du coup.
Oui, complètement. Et là, comment ça se passe? Ben, on va avoir des spectacles toute l'année, notamment sur des festivals de grosse envergure où on peut en voir beaucoup en même temps. Et puis, on essaye de tirer un petit fil qui fasse une jolie suite pour pouvoir animer deux journées dans le village avec toutes les contraintes qu'on a de l'espace public. Voilà, de quoi on a envie de parler, etc.
Et justement, bah, en 2026, de quoi on a envie de parler ? Est-ce qu'on, nous, juste avant, on évoquait en première partie de l'émission, et on l'avait fait aussi dans nos studios il y a un mois avec FIF, notamment sur les valeurs du festival. Il y a aussi des valeurs et des spectacles engagés. Justement, là, tu disais le fil rouge de cette année, c'était quoi un peu la volonté générale s'il y avait, je sais pas, un ou deux mots qui seraient attraits et communs à tous les spectacles ?
Cette année, on a une programmation qui était... on a un peu tiré le fil de comment les hommes et les femmes interagissent avec les hommes et les femmes et comment les hommes et les femmes interagissent avec le vivant, la nature, etc. Voilà, c'est pour ça que demain, par exemple, on a le spectacle Concordance, le spectacle invertébré de la compagnie Concordance, pardon, qui va parler de bioéthique, c'est de la danse aérienne, c'est très très beau, pas hésiter à venir à 13h30. J'en profite pour glisser qu'on a eu pas mal d'erreurs dans le programme, sur le site internet, sur la billetterie. C'est bien 13h30 demain derrière le collège Henri Rouvière. Voilà. Demain à 18h15 on a le collectif Xanadu qu'on a souvent accueilli au Festival d'Olt avec d'autres spectacles aussi avec Road Movie sur place et sans caméra qui est leur dernier voilà, et qui là est vraiment axé sur comment 5 êtres humains se mettent d'accord avant de partir dans un covoiturage. Voilà, c'est super aussi, il faut venir.
Oui, mais rien que le titre, moi j'avais dit là, le jour à l'émission, me donnant envie d'aller voir ce spectacle de demain. Et puis également, demain aussi des concerts, FIF.
Eh oui, tout à fait, c'est pas fini.
Ça finit jamais. Si, ça finit un jour, mais en tout cas, tard dans la
pas
nuit.
Pas ce soir. Oui, c'est ça, ça continue demain avec une soirée bien dansante aussi. Le samedi, on essaie de faire venir le plus de monde possible, donc c'est... ça va danser collectivement demain avec Wise The Eye en ouverture, qui est un groupe de techno... qui se dit préhistorique parce que c'est que des instruments qui sont auto-construits par un des membres du groupe. Donc c'est de la techno DIY en acoustique, c'est assez intéressant. Et il y a aussi un gros travail sur les costumes avec ce groupe-là qui va être chouette à découvrir demain. Ensuite on a des groupes un peu plus groovy que ce qu'on a l'habitude de faire venir mais qui du coup vont être intéressants à voir évoluer sur la scène du Grand Chap avec Sheila Baum qui fait du groovy velours. En gros c'est du jazz un peu soul, avec une chanteuse qui va parfois chercher des sonorités un peu plus dans le hip-hop et l'électro, c'est assez chouette à voir et ils sont 7 sur scène, du coup c'est une belle prestation. Après il y a un truc qui sort bien des lignes qu'on a l'habitude de voir en festival du côté musique puisque ça va être le show de Boucherie Miaou qui est à la fois un spectacle de cirque et une prestation de noise avec Julius qui est à la batterie et qui a des milliers et des milliers de pédales pour distordre à fond son son pendant qu'au-dessus il y a Noémie qui fait du cerceau, donc ça va être un truc aussi pour les yeux et pour les oreilles. Et ensuite il y a Bol, ça revient sur de la trance, un peu dans la même veine que Edredon Sensible, Turfu ou je me rappelle plus comment ça s'appelle. Il y a un autre groupe qui est venu qui faisait dans ce style là aussi.
mais par exemple sur ce spectacle de noise, batterie avec des effets et une circassienne par-dessus, tu les trouves où par exemple ces pépites ? Ça s'est passé comment typiquement pour programmer concert-spectacle ?
On tient un resto l'été qui s'appelle La Guinguette du Bout du Lac à Villefort où on fait aussi des concerts et Julius qui est donc le batteur de cette formation-là tenait un resto à Marseille qui était un peu dans la même vibe que le nôtre. Et lors de l'anniversaire de Nina, ils s'étaient rencontrés et du coup, la connexion s'était effectuée à ce niveau-là, mais c'était un peu impromptu, quoi. C'était pas tant un travail de recherche qu'un hasard de la vie.
Une connexion humaine et qui, finalement, artistiquement, vous vous retrouviez, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et ben, donc on a un peu le point, reste quelque chose, non ?
Bah oui, la grosse clôture du festival dont on avait parlé aussi l'autre fois parce que tu les connais, c'était Double Vitrage.
Oui, j'avais oublié Double Vitrage, ouais.
Qui commence à bien tourner et qui vont faire une des plus belles clôtures qu'on ait faites sur ces dernières années, je pense, avec une techno acoustique et instrumentale, enfin non pas acoustique mais instrumentale, qui va pousser tout le monde dans ses retranchements.
On a fait... Oui Camille.
Ouais, avant ça, je voulais juste rajouter que avant cette clôture de chapiteau qu'on espère merveilleuse. On a une clôture de village avec turfu gratuit sur la place de la Poste. Turfu qu'on a aussi accueilli au festival il y a quelques années, qu'on a aussi accueilli quand on avait une cour à Chalon dans la rue, qu'on aime beaucoup et qui promet une clôture de village joyeuse et festive.
Bah ça c'est encore une fois, si vous avez été convaincu et que vous êtes dans le coin, vous venez dès ce soir. Mais si vous êtes un peu plus loin, vous vous dites mince, c'est vrai que dès ce soir c'est compliqué pour voir tous les concerts, ou même ce qui vous intéresse aussi c'est le spectacle de rue, il y a encore tout ça demain. C'est à retrouver aussi sur vos sites, vos différents supports de communication, Instagram, votre site, etc. pour retrouver toutes les informations pour cette 22e édition du Festival d'Olt. Ça fait déjà plus d'une heure que ce plateau existe, ce plateau éphémère avec 48 FM et Radio Barthaz. Donc on va doucement conclure parce que nous aussi on veut profiter dans 20 minutes du premier concert. On va se dire au revoir Raphaël et à une prochaine.
Bah oui, salut Thomas, on va se retrouver dans pas si longtemps de nouveau autour d'un plateau. Ce sera le 17 juillet à Chanac pour Détour du Monde. Voilà, et on vous laisse en musique donc avec Sheila Baum, que Fif, tu viens de nous présenter, qui seront sur scène demain à 22h. C'est Sheila Baum, tout de suite avec leur titre Lavry sur 48FM et sur Radio Barthaz. Bonne soirée à toutes et à tous, et venez au Blémar.
Oui. Au revoir.
Au revoir.
Mon cœur bat comme le tambour d'une machine à laver. Sous les néons, la chaleur du séchoir fait transpirer. Dès que je te vois entrer, j'avale ma salive. Odeur lavande concentrée, je verse ma lessive. Tous les deux assis sur des chaises de plastique. Chacun fixe ses habits et leur danse hypnotique. Nos coudes se frôlent, les mains sont moites. Que vite tu t'hésites, t'as tout doux. Par la bouche de vacuation.